Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Ce volume de la bibliothèque de la Pléiade réunit les mémoires de guerre et les mémoires d'espoir de Charles de Gaulle, enrichi de passages issus de manuscrits autographes. Il ne s'agit ni d'une chronique impartiale, ni d'une biographie exhaustive, mais du récit rétrospectif par lequel un acteur central interprète son action militaire et politique. Les mémoires de guerre suivent le combat de la France libre, de 1940 à la Libération, puis au règlement provisoire de l'après-guerre. Les mémoires d'espoir portent sur le retour du général au pouvoir et sur les premières années de la Ve République. De Gaulle y expose sa conception de la souveraineté nationale, de l'autorité de l'État et du rôle de la France dans le monde. L'intérêt du livre tient autant à son apport historique qu'à sa construction littéraire. Par une prose volontairement ample et classique, l'auteur transforme des décisions, des crises et des conflits en une vision cohérente du destin français. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la France libre comme affirmation de la continuité nationale dans les mémoires de guerre. Le point de départ essentiel est la défaite de 1940, que de Gaulle refuse de traiter comme la disparition de la France. Son raisonnement repose sur une distinction décisive entre les circonstances militaires et la permanence de la nation. La capitulation, l'occupation et le régime de Vichy constituent pour lui une crise majeure, mais ne sauraient épuiser la légitimité française. La France libre est donc présentée moins comme un simple mouvement de résistance que comme l'instrument de cette continuité politique et morale. Cette perspective explique l'importance accordée à l'appel, au ralliement de territoire, à la formation de forces combattantes et à la reconnaissance internationale. Chaque élément répond à une nécessité montrée que la France agit encore en son nom propre. Le récit éclaire ainsi les tensions avec les alliés et avec les autres autorités françaises. Tensions qui ne relèvent pas uniquement de rivalité personnelle dans son interprétation, mais de la défense d'une autonomie nationale. Cette lecture est naturellement celle de son auteur et doit être confrontée à d'autres archives et témoignages. Elle demeure néanmoins fondamentale pour comprendre la logique gaullienne sans représentation française indépendante pendant la guerre. La libération risquerait de placer le pays dans une position subordonnée. Les mémoires font de cette exigence de continuité le principe organisateur de l'action résistante. Deuxièmement, la légitimité politique au cœur des conflits de la libération, le livre met en évidence que la victoire militaire ne résout pas à elle seule le problème du pouvoir. À mesure que la libération approche, de Gaulle s'attache à établir une autorité capable d'administrer le territoire, de restaurer les institutions et d'empêcher que la France ne soit gouvernée comme un pays libéré par des puissances extérieures. Les épisodes relatifs au Comité français de la libération nationale, au gouvernement provisoire et au retour sur le sol métropolitain prennent leur sens dans cette bataille pour la légitimité. De Gaulle insiste sur la nécessité d'unir les forces de la résistance sans dissoudre l'État dans la concurrence des mouvements, des partis ou des ambitions individuelles. Son récit valorise donc l'organisation administrative, le rétablissement de l'ordre public et la décision gouvernementale. Dimension parfois moins visible que les opérations militaires. Cette priorité révèle une conviction durable : une nation ne recouvre pleinement sa liberté que lorsqu'elle peut décider par ses propres institutions. Le lecteur doit aussi percevoir la part de justification rétrospective contenue dans cette présentation. Les désaccords de la période furent nombreux et les solutions défendues par De Gaulle ne faisaient pas l'unanimité. Mais les mémoires permettent de suivre avec précision la cohérence de son cadre politique. Pour lui, l'efficacité de l'action collective dépend d'un pouvoir identifiable, responsable et placé au service d'une finalité nationale qui dépasse les intérêts de factions. Troisièmement, le retour de 1958 et la recherche d'institutions exécutives stables. Les mémoires d'espoir prolongent la réflexion sur l'autorité publique en l'appliquant à la crise de la 4e République et à la fondation de la 5e République. De Gaulle ne décrit pas le retour au pouvoir comme une ambition personnelle détachée des circonstances, mais comme une réponse à l'instabilité gouvernementale, à la guerre d'Algérie et à l'affaiblissement de la capacité de décision de l'État. Son analyse conduit à privilégier des institutions où l'exécutif dispose d'une continuité et d'une force suffisante pour arbitrer les conflits politiques. La Constitution de 1958 apparaît ainsi comme l'expression institutionnelle d'une idée déjà présente dans le récit de guerre : l'État doit pouvoir agir au nom de l'intérêt général, lorsque les divisions menacent de paralyser le pays. Le texte est particulièrement utile pour saisir le sens que De Gaulle attribue à la fonction présidentielle. Celle-ci ne se réduit pas à une direction quotidienne du gouvernement. Elle doit, selon lui, incarner la permanence nationale et assurer l'orientation des grandes décisions. Cette conception permet de mieux comprendre les débats ultérieurs sur l'équilibre entre président, gouvernement et parlement. Elle ne dispense pas d'une lecture critique, car les mémoires défendent le point de vue du fondateur du régime. Le rapport réside précisément dans l'accès direct à une doctrine politique explicitée par celui qui l'a mise en pratique, plutôt que dans une analyse institutionnelle neutre ou extérieure. Casse souveraineté, indépendance et rang international de la France, la politique extérieure constitue un fil continu entre les deux ensembles de mémoire. Pendant la guerre, l'indépendance française suppose de ne pas laisser les alliés définir seuls les intérêts et la représentation du pays. Après 1958, elle se traduit par la volonté de donner à la France une capacité de décision propre dans un monde structuré par les grandes puissances. Les alliances militaires et la décolonisation. De Gaulle ne prône pas l'isolement. Il cherche au contraire des coopérations, notamment européennes et atlantiques, mais refuse qu'elles effacent la responsabilité des États. Cette nuance est essentielle, son idée de l'Europe ne repose pas sur une disparition immédiate des nations. Et son alliance avec les États-Unis n'implique pas un alignement automatique. Les mémoires montrent également que les choix de défense, la diplomatie et la politique intérieure sont liés. Une France économiquement et institutionnellement fragile ne peut, dans cette perspective, peser durablement sur les affaires du monde. Le vocabulaire du rang national peut sembler aujourd'hui marqué par son époque. Mais il désigne une question concrète: quelle marge de décision un pays conserve-t-il lorsqu'il dépend de priorités fixées ailleurs? En exposant cette logique depuis l'expérience du gouvernement et de la guerre, De Gaulle offre un document majeur sur la naissance de l'autonomie stratégique française. Le lecteur y trouvera une grille de compréhension, non une description désintéressée de tous les rapports internationaux. En dernier lieu, une écriture qui transforme le témoignage en œuvre littéraire, la singularité des mémoires tient aussi à leur forme. De Gaulle compose un récit fortement organisé, où les faits sont sélectionnés, hiérarchisés et reliés par une vision d'ensemble. Les scènes de crise, les portraits de responsables politiques et les évocations de la France donnent au texte une ampleur qui dépasse le compte-rendu administratif. La phrase est travaillée, souvent solennelle, et la rhétorique vise à inscrire l'action individuelle dans une histoire plus vaste. Cette maîtrise explique que l'ouvrage soit lu à la fois comme source historique, autobiographie politique et œuvre de littérature. Elle impose cependant une vigilance critique. Le mémorialiste choisit son angle, distribue les responsabilités et construit l'unité de son parcours à partir d'événements qui furent, sur le moment, incertains et disputés. L'image du général, homme de décision placé face aux épreuves nationales, est inséparable de cette mise en forme. Le livre participe donc à la construction de sa propre postérité autant qu'il documente son action. Ce double statut fait sa valeur. À la différence d'une archive brute, il donne accès à une interprétation élaborée des événements. À la différence d'une simple œuvre de propagande, il fournit un récit dense, daté et confrontable à de nombreuses sources. Lire ces pages avec attention revient à analyser simultanément une période capitale du XXe siècle et la manière dont un homme d'État entendait donner une signification durable à son rôle. En conclusion, Charles de Gaulle Mémoire s'adresse d'abord au lecteur qui souhaite comprendre la France de la Seconde Guerre mondiale, la libération et les origines de la Ve République à partir du regard de l'un de leurs principaux acteurs. Il intéressera aussi les étudiants en histoire, en sciences politiques ou en relations internationales, à condition de le lire comme une source engagée et de le mettre en regard de travaux historiques. Les lecteurs de littérature y trouveront une démonstration rare de la puissance stylistique du genre mémorialiste la phrase. La composition et le sens de la scène y servent une interprétation politique cohérente. Son bénéfice intellectuel principal est de rendre visible l'unité d'une pensée. De la France libre aux institutions de 1958, De Gaulle relie la résistance à la défaite, la souveraineté diplomatique, la continuité de l'État et la nécessité d'un exécutif solide. Cette cohérence ne signifie pas que son récit soit complet ou impartial. Certaines voix, oppositions et contradictions apparaissent à travers son propre jugement. C'est précisément pourquoi l'ouvrage apprend aussi à distinguer le témoignage, l'argument politique et la construction d'une image publique. Comparé à beaucoup de mémoires de dirigeants, ce volume se distingue par la réunion d'une expérience historique exceptionnelle et d'une ambition littéraire soutenue. Il ne se limite pas à recenser des décisions ou à défendre un bilan. Il élabore une vision du rôle de la France et du rôle de l'homme d'État dans les périodes de crise. Cette articulation entre documents, doctrine et écriture explique sa place durable parmi les grands textes politiques français du XXe siècle. Si vous souhaitez soutenir Charles de Gaulle, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.